Alors, le salaire est la somme d'argent que le capitaliste paie pour un temps de travail déterminé ou pour la fourniture d'un travail déterminé. Alors, donc c'est une citation de Marx, et ce que ça m'évoque, c'est que c'est daté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas du tout la manière dont on fait l'économie, on ne trouverait pas ce genre de phrase dans les articles, dans les commentaires, etc. C'est une manière de faire de l'économie où on essaye de réfléchir de manière quasiment philosophique à c'est quoi essentiellement le travail, c'est quoi un système capitaliste, est-ce que c'est un bon système, le salaire est la valeur de quoi, est-ce que c'est juste, etc. Et ces questions-là, c'est plus du tout les questions que les économistes se posent aujourd'hui.
Aujourd'hui, le marché occupe une place hégémonique dans les sciences économiques. D'Adam Smith et sa main invisible aux libéraux contemporains, tous y voient le principe central de l'économie. Fort d'un discours théologico-économique, ils en font un dieu incontestable. Pour eux, le marché a toujours raison.
Moi, je viens du sud Togo et mon village est régi par une théocratie. C'est le pouvoir des prêtres de la forêt sacrée. Et donc, ces prêtres de la forêt sacrée, vous n'avez pas de rapport marchand avec eux. Ce sont des rapports liés à ce qu'on pourrait appeler des totems. Par exemple, le python, qui est une espèce de serpent. Okay? Le python, c'est le totem de ma tribu. Et il ne viendrait à l'idée de personne de vendre le python, même à des touristes américains, qui vous donneraient des milliers de dollars pour ça. Donc, on est dans des registres où le sacré supplante tout ce qui peut être relation marchande. La forêt sacrée, il ne viendrait à l'idée de personne de vendre un bout, même si vous avez affaire à quelqu'un, un investisseur chinois qui vous propose des millions de francs CFA pour acheter un lopin de terre de la forêt sacrée. Et même si vous mourrez de faim, il ne vous viendrait pas à l'idée de vendre un lopin de terre de la forêt sacrée. Et donc là, vous avez affaire à une société qui est hiérarchisée de telle sorte que les relations marchandes sont cantonnées à une sphère, et la sphère de la petite économie de subsistance, où la production de maïs va permettre d'acheter un peu de riz, un peu de gari, donc un peu de manioc, etc. Mais sur les grandes choses de la vie, le marché, est-ce qu'il peut induire, ne va pas jouer.
Lorsque des petits producteurs domestiques assurent leur propre reproduction matérielle sur la base de leur production propre, mais dégagent un petit surplus qui est ensuite apporté au marché, certes, nous avons la catégorie du marché, nous avons donc l'échange marchand, mais nous n'avons pas le marché au sens contemporain du terme. Le marché au sens contemporain du terme, c'est vraiment la forme d'organisation des échanges telle que la totalité des activités de production et de circulation s'y trouve saisie. Voilà. Et ça, c'est, en quelque sorte, il y a une différence quantitative, mais qui va produire une différence qualitative. Ça, c'est le marché. Ça n'a rien de naturel. Et à l'échelle de l'histoire, c'est somme toute d'apparition récente.
Le marché n'est pas une instance naturelle. Le marché a été créé par les États, d'accord? Les États ont créé le marché en faisant des lois, par exemple, de libéralisation du prix des grains, comme l'a fait Turgot en son temps, en faisant des lois qui vont interdire l'aide aux pauvres. Ce sont en fait tout un tas de législations qui ont créé le marché. D'accord ? Et ces législations, eh bien, elles sont intervenues parce que pour toute une doctrine de cette période-là, hein, des Lumières, eh bien, c'était un moyen de réaliser une certaine forme de liberté. C'était un moyen d'émancipation.
As though the market somehow existed.
Il faut laisser faire le marché, comme si le marché existait en dehors d'un contrôle humain, comme s'il venait de Dieu. Mais le marché dépend du contexte historique. Le plus important, c'est la répartition des revenus et comment cela affecte le marché. Un exemple classique, après la guerre civile aux États-Unis, quand les Afro-Américains ont été libérés de l'esclavage, ils ont réclamé 16 acres et une mule pour se lancer dans la vie. Ils étaient depuis plus de 100 ans dans la servitude et voulaient une compensation. Ils n'ont pas eu 16 acres et une mule et ont subi une forte discrimination. Quand les gens parlent de cet exemple, ils disent « le gouvernement n'a rien fait, il a laissé faire le marché », alors que ça faisait des centaines d'années qu'il contrôlait les Afro-Américains pour qu'ils restent esclaves. Eh bien, c'est un bon exemple où la servitude a été finalement prolongée par l'inaction. Laisser faire le marché, c'est laisser faire les choses que l'on désapprouve, qui sont fondamentalement inéquitables, et le faire sans justification.
In the 1990s bubble, and another quote from our former chair of the Federal Reserve, Alan Greenspan.
Dans les années 90, Alan Greenspan a dit à propos de la bulle Internet, il y a eu une exubérance émotionnelle.
He said, yes, it's a bubble. In fact, he had a term for it. Irrational exuberance.
Trop de bonheur, un vertige. Trop de joie par rapport à cette opportunité de faire beaucoup d'argent. Ce n'était pas bien. Mais quand on lui a demandé, vous, directeur de la Banque centrale américaine, le régulateur le plus puissant du monde, est-ce que vous allez faire quelque chose? Il a répondu, non, je ne vais rien faire, parce que tout ce que je pourrais faire serait pire. Ce sont des gens intelligents, ils n'ont pas besoin que le gouvernement leur dise quoi faire. Ils savent mieux que nous. En économie orthodoxe, l'idée, c'est que l'État met des bâtons dans les roues. Les solutions que fournit l'État seront toujours déficientes. Reagan a saisi cette idée en affirmant « l'État n'est pas la solution, l'État est le problème ». Ça sonne bien. On a l'impression que c'est la liberté, que la liberté humaine est plus grande si on réduit l'État, puisque l'État nous prend des impôts, impose des régulations et nous empêche d'agir librement. Si vous êtes libéral, vous allez dire, oui, on a de meilleurs résultats parce que dans le marché, le travailleur va négocier avec le capitaliste. Le capitaliste va payer le travailleur exactement ce qu'il vaut. Le travailleur va s'en satisfaire. Sinon, s'il veut plus d'argent, il devra augmenter sa qualification. Et donc l'État n'a aucun rôle à jouer.
La question, c'est quelles sont les instances de médiation raisonnables, acceptables dans une société. Pour Adam Smith, c'est le marché, parce que le marché porterait en lui un génie. C'est cette capacité à mettre en face des gens qui ont des désirs totalement différents. Et c'est pour cela que je crois que nous sommes toujours dans cette tension entre la hiérarchie qui permet d'allouer les ressources hors prix et le marché qui permet d'allouer les ressources dans un système de prix.
Traditionnellement, les économistes libéraux opposent le marché à l'État. Une analyse plus fine suggère qu'il n'y a pas de marché sans intervention de l'État. L'État aurait un rôle à jouer face au marché?
Demander si l'État a un rôle à jouer face au marché, face au, c'est d'emblée poser un rapport d'extranéité de l'État et du capital ou du marché. Or, moi, je crois qu'il n'y a aucune antinomie, précisément. Discuter de leur rapport, c'est dépasser l'idée qu'ils seraient dans une espèce de deux entités, n'est-ce pas, face à face. Et en réalité, moi, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que le marché et le capital sont coextensifs à l'État. Alors, pas à l'État en général, bien sûr, mais coextensifs à la forme historique particulière d'État dans laquelle nous vivons depuis, à la louche, 2-3 siècles, et que pour cette raison même, il faut qualifier d'État bourgeois ou d'État du capital, comme on voudra. Alors, coextensif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État est l'instituteur de l'ordre du capital et de l'ordre du marché. L'ordre capitaliste ou le système de marché n'ont aucune puissance d'auto-institution. L'État et le marché ne sont pas causa sui, ce n'est pas le dieu de Spinoza. Ils sont institués par une puissance autre, qui leur est hétérogène en première analyse, mais qui est vraiment qui va opérer leur advenu sur la scène de l'histoire. Alors là, il faudrait relire toute la fin du livre 1 du Capital sur l'accumulation primitive. Ça ne raconte que ça. C'est-à-dire comment l'ordre capitaliste, pour lancer le processus d'accumulation, s'est livré à un certain nombre de coups de force inauguraux, violents, qui ont été ratifiés par la puissance étatique, qui a donné d'ailleurs ultérieurement force de loi à ces premières irruptions, n'est-ce pas, de la pratique capitaliste.
Well, economists are fond.
Les économistes aiment bien traiter l'État, l'économie et le marché comme des éléments séparés. L'État affecterait le marché. Dans la pensée économique, il y aurait des politiques qui seraient bonnes et d'autres mauvaises. En fait, les deux sont enchevêtrés. L'économie dépend de l'État et dans l'économie mondiale, l'État dépend tout autant de l'économie. Donc il y a une interaction, des allers-retours qui sont essentiels à plein de niveaux. Les marchés ne peuvent pas fonctionner de manière efficace sans un soutien de l'État. La chose la plus évidente, c'est que l'État doit être là pour appliquer les contrats, la loi, l'ordre. Nous savons que les marchés libres, ça n'existe pas, que ça n'a jamais existé. Nous avons besoin d'avoir un droit et des institutions qui protègent la propriété, qui luttent aussi contre la criminalité et nous protègent contre nous-mêmes. En Europe, nous avons le cas d'actions violentes contre les étrangers et donc nous avons besoin d'un État qui assure la paix civile, qui protège la propriété et garantisse les lois du marché. Sans l'État, sans ce cadre politique, sans la protection